Bienvenue dans cette deuxième partie d'Okapi Service, les magazines de la vie au quotidien, les magazines des faits des sociétés de Radio Okapi. Quels sont les avis du Conseil économique et social sur la COP27? Nous en parlons avec René Ngongo, il est rapporteur du Conseil économique et social. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Vos questions, suggestions et préoccupations sont les bienvenues au numéro 081-711-50-01. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo réalise et coordonne Okapi Service et Diedone Nyangasa s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ces numéros.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Quels sont les avis du Conseil économique et social sur la COP 27 qui aura lieu du 6 au 18 novembre 2022 en Égypte? Nous en parlons avec Monsieur René Ngongo, il est rapporteur du Conseil économique et social. Monsieur René Ngongo, bonjour.
Ah, bonjour Monsieur le journaliste.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. En prélude de la COP 27 qui réunira les États parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en novembre prochain en Égypte, la RDC en sa qualité de pays solution dans la lutte contre les changements climatiques a organisé au cours de ces mois, au fait au mois de novembre, les travaux préparatoires de cette conférence à Yangambi puis à Kinshasa. Les travaux se sont terminés sur l'adoption d'une position commune des pays membres des communautés et des États de l'Afrique centrale CEAC sur la gestion de la problématique du climat. Quels sont les avis du Conseil économique et social sur la COP 27 qui aura lieu les mois prochains? Donc, nous en parlons avec vous, Monsieur René Ngongo. René Ngongo, on a la RDC a organisé deux rendez-vous, hein, pour préparer la COP 27 et les conseils économiques et social étaient partie prenante au fait au cours de ces assises. Dites-nous, qu'est-ce que représente au fait pour les conseils économiques et social les questions environnementales en RDC?
Pour le Conseil économique et social, qui est une assemblée consultative, c'est les questions environnementales sont cruciales. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas parler de développement ou développement durable sans mettre l'accent sur les questions évidemment sociales, économiques, mais aussi environnementales. C'est comme ça que, d'ailleurs, pour vous montrer l'intérêt du Conseil sur ce sujet, qui a toute une commission qui s'occupe de l'environnement, ressources naturelles et tourisme. Et dès l'entame du mandat qui a commencé en 2014, mmh, je crois que le Conseil a déjà beaucoup d'avis dans les secteurs. Je vais juste citer l'avis sur la gestion des forêts et tourbières en lien avec le changement climatique. Nous avons proposé aux décideurs un avis sur le secteur énergétique, comment capitaliser notre potentiel énergétique. Et à ce moment-là, ça nous permet d'aller vite vers la transition
écologique.
Écologique, c'est plus vaste. Hein,
ok. Énergétique spécialement.
Énergétique pour passer des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Avec tout ce que nous avons comme potentialité. Mm. Vous rappelez la question de la gestion des eaux et le projet Transaqua. Mm. Ça, c'est des préoccupations qui ont été analysées au sein du Conseil économique. Bref, c'est pour vous dire que c'est un sujet qui nous intéresse. C'est comme ça que nous n'avons pas manqué au rendez-vous de Yangambi et à celui de Kinshasa lors de la pré-COP 27.
Et pour le gouvernement congolais, la RDC, c'est un pays solution dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Quel est le point de vue du Conseil économique et social à ce sujet?
Absolument. Je pense que nous avons aussi poussé ce plaidoyer depuis plusieurs années, déjà en 2014, avec notre avis sur les forêts et les tourbières, où nous avons montré qu'avec ces deux ressources, nous sommes en train d'apporter une réponse qui nous place en meilleure position pour résoudre les questions de changement. Donc, c'est une autre façon de dire que nous avons souligné le rôle important de la RDC dans ce combat contre le climat, et ce plaidoyer RDC pays solution tombe à point nommé parce que réellement, les données de Yangambi, parce que vous avez parlé de Yangambi tout à l'heure, montrent que grâce à la Tour Afrique, le bassin du Congo, c'est qu'est-ce plus de carbone que les bassins d'Amazonie. Et au-delà des forêts, au-delà des tourbières, nous avons en plus les minéraux stratégiques comme le lithium, manganèse, cobalt, cuivre, qui interviennent dans la production des batteries pour les véhicules du futur, qui vont utiliser plutôt les batteries plutôt que les énergies fossiles. Donc, à tout point de vue, nous sommes un pays solution, et ça a été bien souligné à Yangambi, mais aussi lors de la pré-COP, et c'est là, je pense que ça a été prononcé par le premier d'entre nous, le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshilombo, lorsqu'il est intervenu à la COP 26, il a annoncé que la RDC est un pays solution. Et c'est pas un fait anodin que la RDC puisse organiser la pré-COP 27, donc ce qui n'était pas possible il y a quelques années, nous venons de le réaliser, et c'est là justement à cause du rôle capital que joue notre pays dans la lutte contre le changement climatique.
Et pays solution, en même temps aussi, le gouvernement a évoqué, nous ne devons pas mourir de faim alors que nous avons des ressources et qu'il faut exploiter. En même temps, actuellement, il y a un débat assez ouvert sur l'exploitation des hydrocarbures et des blocs gaziers parce que certains blocs se trouvent dans les aires protégées. Est-ce que au niveau du Conseil économique et social, il y a des avis qui ont été émis à ces sujets?
Oui, j'ai parlé tout à l'heure des avis sur la gestion des forêts, la gestion des tourbières, parce que nous ne disons pas qu'il faut mettre nos forêts sous cloche. Et pour paraphraser Madame la VPM, ce ne sont pas des botaniques qu'on va apprécier ou non. Nous devons les gérer, nous devons les exploiter durablement, et nos avis apportent une contribution dans la manière de gérer durablement les forêts de la RDC, qui apporte un apport économique et social évident. Évidemment, nous avons dans cet avis apporté quelques préconisations pour lutter contre l'exploitation illégale, parce que telle que l'exploitation se passe actuellement, ça n'en profite pas ni aux populations ni à l'État, parce que la contribution du secteur forestier au budget national est presque quasi inexistante. Donc cet avis donne des pistes et des solutions pour exploiter durablement ces forêts, pour que ces forêts puissent avoir la possibilité de se régénérer de manière tout à fait naturelle et ou assister, et qu'elle puisse contribuer à jouer les rôles des poumons de la planète.
Au cours de la clôture des travaux préparatoires ici à Kinshasa, il y a aussi un volet important qui a été accordé à la foresterie communautaire qui booste le développement des communautés qui vivent aux environs des forêts du bassin du Congo. Est-ce que le Conseil économique et social a aussi des avis sur la foresterie communautaire?
Évidemment, dans la vie globale sur la question des forêts, il y a les volets communautaires, parce que n'oubliez pas que ce sont ces communautés qui sont les gardiens de ces forêts. Mmh. Quand vous voyez comment vivent les peuples autochtones pygmées, leur interaction avec la forêt, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de cette
communauté.
Et nous n'avons qu'exploité notre loi. Notre panoplie des lois, notamment les codes forestiers, qui fait une passe belle aux communautés pour qu'elles puissent avoir des concessions pour ce qu'on appelle les forêts de communautés locales, foresterie communautaire. C'est important pour que les communautés puissent tirer des dividendes, non seulement en exploitant les produits forestiers non lignés, mais elles ont la possibilité de faire d'exploitation artisanal, bien géré avec un plan simple de gestion pour que les communautés puissent tirer réellement des profits de leurs ressources. Donc c'est vraiment important et c'était une bonne opportunité d'organiser toute une session dans les Sahel du 20 à la Précop pour aborder ces questions et évaluer l'état d'avancement de cette question en République démocratique du Congo.
En même temps aussi, on a évoqué l'aspect paiement crédit carbone. La RDC souhaite revoir à la hausse les coûts liés au paiement des crédits carbone de 5 à 100 dollars. Tel est le souhait du gouvernement congolais. Est-ce qu'au niveau du Conseil économique et social, vous avez des avis à ce sujet?
Absolument. Nous venions d'organiser il y a le 6 octobre une séance académique avec un éminent professeur, le recteur de l'IFA et Angambi, et en même temps directeur de l'ERAIF, Michel Baudouin, pour justement capitaliser cette opportunité avec la Tour Afrique et montrer les rôles que jouent nos forêts dans la lutte contre les changements climatiques. Et il apparaît évident que les taux de 4-5 dollars la tonne carbone est insignifiante par rapport aux attentes de la République démocratique du Congo. Donc il est tout à fait normal que ce chiffre descend, parce qu'il n'est pas normal que pendant que ici ceux qui ont accès à ces marchés reçoivent 5 dollars, pendant qu'ailleurs le minimum c'est 52 et voire même 100. Alors c'est le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo soutient absolument ces plaidoyers, parce que si nous voulons maintenir ces poumons de la planète, ces premiers poumons, il est important d'accéder à ces financements pour pouvoir aider les communautés dans leurs programmes de foresterie communautaire, pour aider la surveillance, parce que l'État a des obligations, a les devoirs d'assurer la surveillance de l'exploitation forestière, que ce soit artisanale ou industriel, et pour ça il faut qu'il y ait des moyens, et ces moyens proviendront de la vente de crédits carbone, et ça c'est une préoccupation qui est revenue lors de la pré-COP et je suis certain ça va alimenter les débats lors de la COP 27 à Sharm el-Cheikh en Égypte.
Oui, une autre question qui était aussi à l'ordre du jour, Monsieur Jérôme, c'était Monsieur René, excusez-moi, Monsieur René, excusez-moi, a concerné surtout l'appui des bailleurs des fonds concernant la protection des forêts du bassin du Congo. La RDC qui y a 60% de la superficie, n'en arrive pas à mobiliser des ressources comme il se devait par rapport à d'autres pays de la région tels que les Gabon, les Congo-Brazzaville.
C'est tout à fait vrai et je pense qu'avec la diplomatie verte de notre gouvernement incarné par les chefs de l'État, nous sommes en train de récupérer d'abord le leadership de la démocratie du Congo dans les bassins du Congo. Parce que lorsqu'on décide de ces questions, nous étions souvent absents et les absents ont toujours tort. La politique de la chaise vide ne paye pas. C'est comme ça que les autres pays qui étaient bien représentés dans tous ces forats au niveau international ont dit tirer la part du lion. Et nous pensons que avec l'organisation de cette conférence scientifique à Yangambi, l'organisation de la de la pré-COP ici à Kinshasa, la mise en place d'un groupe d'experts africains sur le climat avec siège à Kinshasa, je pense que ce sont des éléments, des indicateurs qui montrent que nous sommes dans la bonne voie pour négocier, non pas en position de faiblesse, mais en position de force. Et je pense que la menace des hydrocarbures doit toujours planer dans la tête des bailleurs, parce que s'ils n'arrivent pas à combler les attentes de la démocratie du Congo, nous avons suivi le gouvernement, il faudra aller chercher l'argent dans les secteurs pétroliers pour protéger les forêts.
Quels sont les axes, au fait, quels sont les avis du Conseil économique et social sur la COP 27? Nous en parlons dans cette deuxième partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394 par SMS. Envoyez-nous vos questions, suggestions et témoignages au numéro 081-050-081-711-5001. Et c'est aussi possible de nous envoyer vos commentaires, suggestions, sur la page Facebook d'Okapi Service et par le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Monsieur Charles, nous donnons la parole aux auditeurs, hein, la première vague des auditeurs. Nous allons commencer par Monsieur Charles. Lui, il est à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Tati, c'est Charles Kisimba Salangeta à partir de Lubumbashi.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet que nous sommes en train de traiter sur les avis concernant la COP 27?
Oui, par rapport à leurs avis là, à leurs mémoires, je ne sais pas. Est-ce que le Conseil a aussi soulevé des problèmes concernant l'agression ou bien le non-respect de l'environnement congolais? Là, je fais allusion à la pollution des rivières congolaises, la pollution angolaise de nos rivières, dont nos rivières ont été victimes l'an passé ici. Est-ce que le Conseil a aussi placé un mot quant à ça? Et si concernant aussi... La situation du Tchad, qui voulait à tout prix prendre notre eau de la RDC vers le Tchad. Est-ce que ce non-respect-là a été aussi évoqué dans leur mémoire ou pas? Et puis, par rapport à leur économie, nous comprenons jusque-là que c'est vraiment un problème. Parce que, et le gouvernement, et le conseil, tout le monde s'attend à une certaine économie là, extravertie. Or, si on est à cette étape ici, à cette honte ici au Congo, c'est parce que notre économie a toujours été extravertie. Qu'est-ce que les conseils? Est-ce que les conseils ne proposent pas, n'a-t-il pas ses propres fonds? Au cas où, par exemple, dans leur mémoire, on les répondait par une réponse là négative. Qu'est-ce que les conseils va-t-il faire pour répondre un tout petit peu aux soucis de la population congolaise, au lieu d'attendre toujours des financements venant à l'Orient, des financements venant à l'Occident? Est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes créer nos propres fonds ici localement? Voilà un peu, messieurs les journalistes.
Merci beaucoup, Charles. Je rappelle que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, allons à Kanyoka, au Kasaï central, hein, pour donner la parole à Kachai. Bonjour.
Bonjour, monsieur Tati Mapuku, et bonjour à monsieur l'invité de la radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous révéler, monsieur Kachai?
Merci beaucoup, monsieur Tati, de la parole que vous nous accordez. Monsieur Tati,
oui.
Vous savez, en droit international, il y a un principe qui dit que le principe du pollueur-payeur. Lorsqu'un État se permet de polluer l'environnement d'un autre, il est tenu de payer. Mais vous savez que l'environnement, dans beaucoup de pays dans le monde, il pollue l'environnement. Et surtout, notre État, la RDC, qui est qualifié d'un État solution, selon les dires de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, que la RDC est un pays solution. Mais en quelque sorte, la RDC est aussi polluée par les grandes puissances et elle est en état de faiblesse pour revendiquer les dommages et intérêts par rapport à la pollution de l'environnement. Alors, je ne sais pas, parce que Madame la ministre l'avait déjà signalé dans la réunion pré-COP 27, sur base de tout ce qui doit être discuté en Égypte. Alors, il y avait des avis et considérations arrêtés dans cette pré-COP. Alors, je ne sais pas, selon Madame, qu'est-ce qu'elle peut rassurer à la nation congolaise, à telle enseigne qu'elle insiste sur le fait que la RDC est un pays solution. Pays solution. Pour que les étrangers viennent polluer, viennent exploiter, viennent faire ce que bon leur semble, et nous, nous sommes là pour donner solution à leurs propres problèmes pendant que nos propres problèmes ne sont pas résolus. En matière de l'environnement, nous pouvons avoir beaucoup de richesses, accroître l'économie nationale. Mais quand nous laissons à la merci des autres, nous signons tout simplement des contrats. Lesquels contrats, Léonais, qui avantagent ceux qui viennent contracter, et nous, la partie contractante, nous sommes en état de faiblesse, et nous cédons tout à ceux qui viennent, à ceux qui ont des moyens, à ceux qui ont des capitaux. Parce que vous savez, en matière de contrats, lorsque vous n'êtes pas, vous êtes en état de faiblesse, vous n'avez pas des économies fortes, on va vous duper, et vous allez tout céder. Et surtout que tout se transforme ailleurs. Nous n'avons pas des usines de transformation de ce que nous produisons. Alors c'est une peine perdue. Je voulais insister sur la participation de la RDC à la COP 27 en Égypte dans les tout prochains jours. Que Madame la ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba, avec toute l'intelligence et la sagesse qui vous anime, veuillez plaider la cause pour que la RDC ne soit pas en état de faiblesse. Pays solution pour les autres. Alors nous-mêmes, nous n'avons pas encore de solution. Elle n'a pas évoqué le cas de l'agression de certains groupes armés à la RDC. Quand ils menacent la RDC, nous ne savons pas accéder dans certaines forêts. Vous voyez le cas, par exemple, de Routchour. Alors, toute la forêt qui est de l'autre côté, là, il y avait l'exploitation de coltan par les Rwandais. Mais on n'a jamais dénoncé ça. Alors, ça avantage qui? Les Rwandais. Maintenant, nous sommes toujours là pour dire que nous sommes pays solution pour les autres, si je comprends. Ou soit, quand ils parlent de pays solution, c'est pays solution, la RDC, pour ses propres problèmes, ou soit pays solution pour les problèmes des autres.
Merci beaucoup,
mon prédécesseur vient de souligner que les rivières ont été polluées, alors ont été empoisonnées, pour bien dire, on avait empoisonné du côté de Tikapa par l'Angola, et l'eau était rouge. Les populations de ce côté-là qui avaient bu de l'eau sale, l'eau empoisonnée, beaucoup étaient mortes, et puis les autres ont connu des maladies. Alors, est-ce qu'on a soulevé un peu tout ça? J'aimerais que l'on puisse à tout moment tabler sur des questions pareilles pour que la RDC ne soit pas seulement pays solution pour des autres pays qui se disent grande puissance, alors que nous avons des problèmes sérieux à l'interne qui ne sont pas résolus. Or, avec l'exploitation des minerais, avec même vous savez qu'il y a les braconnages, c'est l'environnement. Oui. L'ICSN est attaqué à tout moment. Le parc de Virunga est toujours menacé à tout moment. Est-ce que madame a soulevé toutes ces questions-là? Est-ce
Merci
qu'il
beaucoup.
Y a moyen de lutter d'abord contre l'influence de l'extérieur qui finance parfois, ce n'est pas un secret, certains pays financent les groupes armés pour déstabiliser le Congo et à ce moment-là, ils poursuivent de notre faiblesse pour nous exploiter, alors nous disons que nous sommes un pays solution. Alors j'aimerais que madame, à la COP 27, qu'elle soutienne l'idée telle que la RDC doit être pays solution pour ses propres problèmes et non pour les problèmes d'abord des autres États.
Merci beaucoup, monsieur Kachayi, s'il vous plaît. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kanyoka que vous intervenez. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à appeler, à nous appeler. Hein. Nous allons vous rappeler. Appelez-nous au numéro 081-890-63-94. Monsieur René, qu'est-ce que vous répondez à monsieur Charles de Lubumbashi par rapport à la pollution des cours d'eau de la RDC, et il a également soulevé la question, la problématique relative au transfert des eaux de la rivière Ubangi vers les lacs Tchad. Est-ce que le Conseil économique et social a émis des avis sur ces deux questions?
Ouais, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aux auditeurs, Charles et Kassai, qui visiblement sont passionnés par ces questions et qui posent des questions pertinentes. Pour répondre aux amis, je pense que à son temps, nous avions parlé toujours sur Radio Capi, sur la note technique du Conseil économique et social qui a été adressée à qui des droits par rapport à cette question de pollution, puisque nous avons des représentations dans toutes les provinces. Nous avions eu très tôt vent de cette situation calamiteuse et toutes les informations récoltées ont été transmises à qui des droits. Et vous rappelez que la vice-première ministre en charge de l'environnement avait effectué un déplacement avec toute une équipe pour aller évaluer ces places. Et je pense qu'il y a tout un travail de diplomatie qui est en train de se faire pour que les pollueurs puissent payer, parce qu'ils ont aussi parlé de la question des pollueurs payés. C'est vrai que ça montre encore une fois comment les entreprises qui viennent en Afrique ne respectent pas les questions environnementales. Nous avons des normes aussi bien en RDC qu'en Angola par rapport à l'exploitation de nos minéraux, mais voilà qu'une entreprise n'a pas respecté ces normes et ça a conduit malheureusement à la mort d'hommes et à une destruction méchante de nos écosystèmes aquatiques. On a déploré la pollution des rivières, c'est vrai que ce sont les hommes, mais aussi les bétails qui ont souffert de cette pollution. Il est revenu sur la question des transferts des eaux de l'Ubangi vers le lac Tchad. C'est le fameux projet Transaqua.
Monsieur René, s'il vous plaît, avant d'évoquer cet aspect, j'aimerais que vous puissiez faire. Est-ce qu'il y a eu des avis sur la réparation des victimes de cette pollution des cours d'eau au niveau du Conseil économique et social?
Oui, nous avons transmis les éléments qui étaient disponibles au ministère et vous avez suivi tous les plaidoyers. Je pense que je venais de dire que c'est un dossier qui est en cours. Mmh. Il y a un suivi pour qu'il y ait réparation par rapport aux communautés, mais aussi au bétail qui ont subi des préjudices énormes. Mmh. Hein, donc c'est un dossier qui est en cours et je crois que ça se règle par voie diplomatique parce que ça vient, la source c'est en Angola comme on l'a dit. Donc, il a aussi abordé la question des Transaqua. Mmh. Nous avons, à l'époque, finalisé et rendu public un avis du Conseil économique sur cette question des transferts des eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad, où nous avons montré les risques sur tous les plans, sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan social de ces transferts. Et sur le plan écologique, on sait que transférer les eaux d'un bassin écologique vers un autre a toujours eu des impacts très très négatifs. Et d'abord, la rivière Ubangi, qui était navigable 9 mois sur 12, aujourd'hui c'est à peine 4 à 5 mois qu'elle est navigable. Donc, les spécialistes parlent déjà de la rivière qui est malade. Mmh. Et vous ne pouvez pas transférer les eaux d'une rivière malade vers les lacs Tchad parce que c'est vouloir résoudre un problème et créer un autre problème. Donc, cet avis qui est disponible au Conseil économique a montré tous les aspects négatifs de ce projet et a conseillé, parce que nous sommes une assemblée consultative, nous n'apportons que des avis de conseils aux décideurs et je pense que vous avez suivi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun acte de transfert des eaux du bassin de l'Ubangi vers les lacs Tchad. Donc, nous avons pris une position claire pour dire que nous ne pouvons pas sacrifier non seulement nos écosystèmes, mais aussi les populations actuelles et futures à cause de ces transferts des eaux de nos rivières, spécialement la rivière Oubangui, vers les lacs Tchad.
Oui, M. René, maintenant, comment répondez-vous à Kachaï de Kanyoka qui dit que, bon, la Madame la ministre dit que nous sommes un pays solution, pour le monde, mais nous ne devons pas être un pays solution pour le monde. D'abord, nous devons d'abord l'être pour nous-mêmes, en termes de nos richesses.
Avant d'arriver à notre ami de Kachaï, Charles qui est revenu sur le financement propre qui doit être initié. Et vous savez que nous avons beaucoup d'initiatives au niveau national. On n'en parle pas suffisamment. Nous avons les fonds forestiers nationaux. Les fonds forestiers nationaux, justement, a pour mission de récolter en interne les fonds. Nous sommes en train de travailler sur un avis par rapport à la question des batteries pour les véhicules électriques. Et le plaidoyer du Conseil, c'est que nous ne devons plus exporter les matières brutes vers ceux qui vont produire ces batteries. Nous, ni seulement produire les précurseurs des batteries, mais nous devons initier des programmes, et je pense que le gouvernement, à travers le ministère des Industries, est suffisamment avancé dans la réflexion et même jeter les premières bases pour que nous puissions nous-mêmes produire les batteries, pourquoi pas vite les véhicules électriques. Tout cela, ça va ramener de l'argent pour permettre à notre pays de vouloir et de pouvoir faire face à tous les défis. Mais c'est vrai, c'est pas parce que nous sommes en train de faire des efforts au niveau national que nous ne pouvons pas bénéficier de notre droit. Nous sommes un pays solution, c'est vrai pour les autres, mais aussi avant tout pour nous-mêmes. Puisque nous sommes solution pour les autres, c'est une facture que nous présentons, c'est pas un don. Donc comprenez que nous devons, lors des négociations prochaines, nous présenter un pays de solution et réclamer à juste titre les paiements des services écosystémiques qui rendent les forêts et les tourbières de la RDC. Alors, il a abordé une question importante pour dire que nous devons une solution pour nous. Bien sûr, j'ai toujours dit que les premiers bénéficiaires des forêts, c'est nous-mêmes. Parce que ces forêts, monsieur le journaliste, et chers amis Kassai et Charles, je ne sais pas si vous êtes dans les zones forestières, mais ce sont les supermarchés pour les communautés. C'est là que les communautés se soignent. C'est là que les communautés vont faire les rites, donc sur le plan culturel, sur le plan spirituel. Nous sommes, même sur le plan économique, social, nous sommes d'abord les premiers bénéficiaires. C'est comme ça que nous préservons les forêts pour nous-mêmes et pour nos générations futures, évidemment, puisque les services que ces forêts rendent à l'humanité sont réels, c'est comme ça que nous disons, nous en bénéficions, mais nous devons aussi présenter notre facture à tous les autres qui en bénéficient. Donc, on n'a pas négligé la partie interne, et merci pour les préoccupations que nous allons transmettre à Madame la vice-première ministre en charge de l'environnement, pour dire les compatriotes insistent pour que les forêts soient d'abord une solution pour nous-mêmes. Et je pense qu'elle l'a dit suffisamment lors de la pré-COP à Kinshasa et même à Yangambi, que nos forêts ne sont pas des jardins botaniques que nous devons seulement observer et ne pas y toucher. Je pense que c'est un plaidoyer qui est valable. Nous devons avoir des alternatives, et par contre, que si on a besoin de moyens supplémentaires, c'est parce que nous pouvons éviter d'utiliser les bois de chauffe si nous avons accès à l'énergie. Or, nous avons beaucoup de potentialités. Il y a la possibilité d'appuyer des programmes d'énergie renouvelable. On peut faire des programmes genre IBI grâce à l'agroforesterie, reboiser les savanes et utiliser ces bois comme Makala, comme bois de chauffe. À ce moment-là, on diminue la pression sur les forêts. Mais pour arriver à faire ces programmes comme IBI et d'autres, le pays a besoin de moyens. Et c'est comme ça qu'à juste titre, nous nous présentons dans ce forum pour nécessité demander une compensation juste et équitable.
Quels sont les avis du Conseil économique et social sur la COP 27? Nous en parlons avec Monsieur Redengongo, que nous gardons en ligne. Il est rapporteur du Conseil économique et social. Nous retournons au standard pour donner la parole aux auditeurs. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Par SMS, nous attendons vos commentaires au numéro 081-711-50-01. C'est aussi possible de poster vos commentaires sur la page Facebook d'Oka Service et dans les courriels dénommés service@radiocapi.net.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Monsieur Guiston, vous êtes à Kambove dans le Haut-Katanga. Bonjour.
Bonjour, Tati Makoukou.
Allez droit au but. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre avec notre invité?
Voilà. Moi, j'aimerais plutôt commencer par demander aux Congolais d'être sérieux envers nous-mêmes. Vous allez voir si l'extérieur traîne encore à donner les financements aux Congolais, c'est parce qu'ils connaissent nos mentalités. Vous allez voir pendant la période de reboisement, nous allons vers le mois de décembre. Pendant la période de reboisement, vous allez voir les ministres descendre dans des localités, dans des territoires, soi-disant que nous allons faire les reboisements. Cette descente-là sera accompagnée des caméras et tout, on va filmer comment est-ce que les ministres vont faire les reboisements, mais ça sera 6 jeunes plantes seulement qu'on va mettre dans la terre et on va dire on a planté à Kambove, on a planté telle part, ainsi de suite.
Oui, mais monsieur Kambove, s'il vous plaît, je vous signale qu'il y a un programme de plantation d'1 million d'arbres du chef de l'État qui est en cours d'exécution.
Voilà, nous devons voir ça. C'est ce qui sera très important. La deuxième des choses est que je suis en train de fustiger le comportement des inspecteurs du service de l'environnement. Vous allez voir, ce sont les Chinois qui sont en train d'opérer le déboisement à grande échelle ici chez nous à Kambove. Et les paysans ramassent les bois morts aussitôt qu'ils vont se présenter à l'entrée de la commune de Kambove avec les bois morts. Ils sont appréhendés par les services de l'environnement, ils sont tracassés. Et pourtant, le déboisement est fait par les entreprises minières qui entourent la cité ou la commune de Kambove. Vous voyez, c'est un comportement à décourager auprès de nos services.
Merci beaucoup, Monsieur Guiston. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kambove que vous intervenez. Cette fois-ci, allons au Sud-Ubangi, à Gemena spécialement, pour donner la parole à Maître Mopila. Bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste, bonjour, le plateau.
On vous écoute.
Le problème qui concerne le problème de l'environnement, c'est vraiment trop complexe, et c'est naturel, et aussi c'est divin. Pourquoi je parle de la divinité? Parce que Dieu a créé le monde, et lui-même Dieu qui a placé le monde comme tel. Je prends le cas de Sud-Ubangi. La province de Sud-Ubangi, c'est une province vierge, et non seulement vierge, elle est assurée par la nature, entre autres la forêt équatoriale. Mais si je prends le cas de la rivière Ubangi, je sais que notre grand frère Alpha Benza a publié dans sa thèse de doctorat toute cette question. Il a toutes les réponses, il a déposé les questions, il a donné des résolutions. Si l'invité veut parler avec Alpha Benza, il aura toutes les réponses, que nous sommes catégoriques par rapport à ça. Et même pas une grande de notre province ne peut pas partir ailleurs, c'est que nous aurons la solution. Je prends un exemple. Les gens qui viennent exploiter nos terres ici, la voici Bangui, la population ne sont pas bénéficiaires. Vous comprenez? La forêt est souvent dit, elle est vierge. Mais j'ai aussi attendu un Américain à l'époque. Il a dit, à l'époque, vous pouvez comprendre, tu vas être riche. Parce que pour l'air seulement, tout le monde, le monde entier veut nous rendre au Congo. Nous devons être notre environnement. C'est très important. Donc moi, je renvoie l'invité à trouver honorable Alpha Benza. Il a parlé sur la rivière Ubangi, sur la rivière Ubangi. Non seulement ça, notre forêt, elle est alors vierge. Nous ne voulons pas que les gens viennent toucher notre forêt parce qu'elle est protégée pour sauver le monde. Ça, c'est une évidence. Salut notre ministre de l'Environnement provincial, notre grand frère Bouba, qui se bat pour ça. D'ailleurs, il vient de quitter la peau, il fait un forum. Donc, il a parlé pour la forêt sur le Bangui et se protéger. Il faut boiser, il faut aussi reboiser, mais le reboisement, c'est tout un problème qui concerne tout le monde. Qui est important que tout le monde puisse prendre la conscience pour protéger. C'est très important. Le COP 13, COP 14, COP tout ça, mais la province sur le Bangui doit être protégée, nous sommes là pour ça.
Merci beaucoup, Maître Mopila. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Guébena que vous intervenez. Renaud Gongo, qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs Guy Stone et Maître Mopila?
Oui, nos compatriotes Guy Stone et Maître Mopila abordent des questions importantes relatives à la souveraineté et de la République démocratique du Congo sur les ressources, mais aussi à la question de gouvernance de ce secteur. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours pour améliorer la gouvernance de ce secteur. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, vient de lancer des programmes de gestion durable des forêts de la République démocratique du Congo pour améliorer la gouvernance. Vous savez que c'est à cause de ça, parce que les secteurs étaient mal gérés, qu'il y a un moratoire sur l'attribution de nouvelles concessions. Parce que le gouvernement est conscient qu'il faut assainir les secteurs pour que les activités de suivi et de monitoring se fassent normalement. Et je suis d'avis avec notre ami Guston Akambov qui souligne l'implication des étrangers, surtout les Chinois, dans l'exploitation anarchique et illégale de nos forêts avec des dégâts énormes sur notre environnement. Donc, je ne peux qu'appuyer son plaidoyer, mais les racistes, il y a des efforts qui sont en cours avec l'appui des partenaires. Vous savez que la RDC a pu obtenir l'accord vers 26, un montant de 500 millions de dollars. Justement, tous ces montants sont focalisés, orientés vers les solutions en vue d'améliorer la gouvernance de ce secteur. Donc là, il aborde vraiment des questions utiles et dont la mise en œuvre nécessite certainement encore des moyens.
Oui, mais Guston a aussi évoqué, René Ngongo, l'aspect lié au reboisement. Généralement, vous voyez, lorsqu'on lance des campagnes de reboisement, vous voyez les ministres ou l'autorité provinciale venir planter à titre symbolique 2-3 arbres, puis c'est fini, il n'y a plus rien.
C'est toute cette partie de gouvernance qui nécessite un suivi. Il y a beaucoup de choses qui se lancent, mais par manque de suivi, parfois on n'a pas de résultats. Et je pense que vous lui avez apporté la meilleure réponse en disant que le gouvernement s'est engagé à travers le programme de 1 milliard d'arbres à apporter des solutions. On ne sait pas avoir 1 milliard d'arbres si on plante quelques parties sans suivi. Je pense qu'il y a une mobilisation de toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre de ce programme. Et je dois dire à notre ami que ce n'est pas une affaire du seul ministère de l'Environnement. Je pense que nos organisations au niveau de la base, dans les communes, dans les paroisses, sont lancées de plus en plus dans les questions de reboisement parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en termes du changement climatique et parmi les solutions, nous devons poser des gestes éco-citoyens, notamment planter les arbres. Donc j'en profite de votre micro, monsieur le journaliste, pour lancer cet appel. Ce n'est pas ces arbres-là, ce n'est pas les ministres qui les plantent qui vont en bénéficier, ce sont nos enfants. Donc nous-mêmes, nous pouvons les faire dans les écoles, et ainsi de suite. Donc, pour arriver à 1 milliard d'arbres, si chaque citoyen plantait par semaine des arbres, c'est plus facile que nous puissions arriver rapidement à 1 milliard. Donc,
oui, monsieur René Ngongo, s'il vous plaît, je vous reprends la parole momentanément. Il est temps de donner la parole à deux derniers auditeurs, aux auditeurs qui sont au standard. Et puis, je reviens vers vous. Maître Joseph, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Journaliste.
Oui, allez droit au but, on n'a plus assez de temps, merci.
D'accord, merci beaucoup. Mon problème est celui-ci.
Mm.
On est en train d'évoquer la RDC étant la solution. Problème, un pays solution. Alors, je ne sais pas d'abord si la communauté internationale est consciente de cet aspect. Alors, si la communauté internationale est consciente, cette fois-là, nous devons prendre la main forte. Nous devons prendre la position des forces. Au lieu peut-être de rechercher des financements, à quel titre, on ne sait pas. Est-ce que ce sont des prêts? Est-ce que ce sont des dons? Financements, à quel titre? Ça, je l'ai dit, pour qu'on réfléchisse comme le commun des mortels.
Mmh.
Alors, au lieu peut-être d'attendre des financements, moi, je croirais peut-être que la RDC, ayant une position prédominante, doit rechercher à ce que, comme ce n'est pas une ferme pour tout le monde, c'est un État indépendant, il faut que la RDC s'impose, genre, mettre des conditions comme une sorte de redevance que le monde entier qui veut profiter de la géologie congolaise, le monde entier qui veut profiter de la position climatique dont les bénéfices reviennent du Congo, doit payer quelque chose. Ou bien doit accorder à la RDC une sorte d'avantage à titre de redevance, si on peut le dire comme ça. Cela peut nous permettre d'avoir quand même notre force et à bénéficier de notre position comme pays solution. Au lieu peut-être de nous mettre au même pied d'égalité que les autres, alors que nous sommes solution pour eux. Allez-y comprendre que c'est un peu aberrant.
Oui, mais voilà, maître Joseph, s'il vous plaît, il y a les principes des pollueurs payants et donc ce mécanisme existe déjà à travers le monde.
Ben, j'aimerais vous dire ceci, monsieur le journaliste. Ce principe est bel et bien existant. Mais il faut comprendre que l'application du droit international public, c'est toujours une application volontaire. Parce que cette fois-là, il faut voir encore que si les pollueurs payants n'arrivent pas à payer volontiers, on doit saisir soit la Cour internationale de justice, soit des juridictions internationales pour cette réparation. Et cette fois-là, il faut voir encore que pour que ces juridictions puissent agir, il faut que l'autre pays, donc le pollueur payant, puisse accepter leurs compétences. Ce que j'ai dit, c'est donc on est sur une sphère où il y a des normes qui existent, mais dont l'application devient mythique, l'application devient hypothétique, monsieur les journalistes.
Merci beaucoup.
On est en arrivée là. C'est mieux peut-être de mettre des contraintes déjà au départ.
Mm-hmm.
Des contraintes qu'on n'en bénéficie pas gratuitement comme ça, monsieur le journaliste. C'est un peu ça.
Merci beaucoup, maître Joseph. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kikwit que vous intervenez. Allons cette fois-ci à Lubumbashi pour donner la parole à Georges. Bonjour.
Bonjour, monsieur Tati Mapoukou. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Allez droit au but. Mais, on n'a plus assez de temps, merci.
Monsieur Tati, je vais d'abord réagir par rapport à l'appellation de notre ministre qui dit que nous sommes le pays solution. Bien sûr,
la liaison n'est pas bonne avec la ville de Lubumbashi. Georges, excusez-nous, nous vous relancerons peut-être à la prochaine occasion parce que là, on est presque à la fin de notre entretien. Monsieur René Ngongo, comment répondez-vous à maître Joseph de Kikwit?
Avant d'aller à Kikwit, je crois qu'il y a une préoccupation de maître
Mopila qui a fait allusion à la forêt équatoriale de Guémena, qui est encore vierge, qui mérite d'être protégée.
Oui, je crois qu'on a intérêt à la maintenir parce que si on arrive à obtenir les paiements des services environnementaux, les paiements des crédits carbone, je pense que les Sidoubangui pourraient être parmi les grands bénéficiaires. Donc, il nous a recommandé un professeur qui a fait une grande publication. Je pense que là, c'est le moment d'interpeller tous les chercheurs qui font des activités ou qui publient sur ces questions, de partager les résultats de leurs
recherches.
Et de se faire connaître. Parce que maintenant que nous avons un groupe d'experts africains sur le climat, manifestez-vous et les sièges, c'est en République démocratique du Congo. C'est notre compatriote, le professeur Raphaël
Chimanga, qui
pilote. Donc, manifestez-vous auprès de ce groupe pour que on puisse capitaliser vos compétences. Et je pense que pour cette COP de 27, le gouvernement va capitaliser l'expertise lors de nos chercheurs lors de cette COP en Égypte. Alors, notre ami de Kikwit, il a parlé des pays solutions, il a parlé des contraintes. Justement, tout ça qui est dans le dans les négociations. N'oubliez pas qu'il y a eu l'accord cadre, l'accord de Paris sur le climat qui a tracé les actes et les pays qui ont ratifié, ça devient exécutoire. Donc ça sont des contraintes et c'est comme ça que vous avez bien parlé des pays pollueurs. Et ces pays doivent mettre de l'argent. Les montants inconnus, c'est 100 milliards de dollars chaque année. Et malheureusement, jusque-là, ces communautés n'arrivent pas à mettre la main dans la poche pour donner cet argent et faire face au réchauffement climatique qui, de plus en plus, malheureusement, devient inquiétant parce que nous sommes en train d'aller vers la barre des 2 degrés et ça va être encore plus grave. Et nous ne serons pas les seules victimes de ces changements, mais aussi beaucoup de pays, même en Europe, vont être rayés de la carte si rien n'est fait pour réduire la tendance des émissions de gaz à effet de serre.
Monsieur René Ngongo, nous rappelons que vous êtes le rapporteur du Conseil économique et social. Avec vous, on a eu à faire le point sur les avis du Conseil économique et social sur la COP 27. Merci d'avoir été les nôtres avec nous dans le cadre de cette émission au Capi Service. À la prochaine occasion. Au revoir.
Au revoir.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
C'est par ici que nous clôturons ce magazine Okapi Service que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Jean-Marc Matouaki a supervisé ce numéro. Marcel Gombo a réalisé et coordonné ce numéro. Et Dieudonné Nyangassa était à la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne continuation de suivre les programmes de Radio Okapi. À jeudi. Merci, au revoir.